nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour Amiral. Amiral Jacques Langsade, vous êtes le président de l'Académie de Marine, une institution prestigieuse qui tire ses racines du XVIIIe siècle et qui perdure aujourd'hui avec un certain nombre de vicissitudes, mais qui réunit en son sein les plus éminents, non pas militaires, mais toutes les personnes de haut niveau qui sont intéressées et qui ont donné toute leur science à la marine et aux océans. Ce qui est assez curieux, c'est que cette Académie de Marine, dans le fond, a des origines qui ressembleraient à celles de l'Académie française, car on dit toujours en s'amusant que l'on se réunit autour d'un bouillon, on se mit à parler et l'on fonda une académie. C'est un petit peu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en plein milieu du XVIIIe siècle.
Oui, d'abord bonjour, je suis très, très heureux d'être à Canal Académie aujourd'hui. C'est vrai que l'Académie de Marine aurait pu... être, comme sa très grande sœur, l'Académie française, un élément essentiel dans la vie culturelle française. Mais le hasard de l'histoire ont fait que les choses ne sont pas tout à fait passées comme cela. Bon, elle a été créée en 1752. À l'époque, c'était sous le titre d'Académie générale des ports. Pour tous les ports, très exactement.
Ce qui explique un petit peu le fait qu'elle ne soit pas née plus tôt, car les marins sont dans les ports. Par définition, ils ne sont pas sur la Seine, sur les bords de la Seine.
Les marins sont dans les ports, et je pense que nous reviendrons sur ce sujet. Nos concitoyens, dans leur histoire, ont été relativement peu tournés vers la mer. Nous sommes un peuple de terriens, même si nous avons des marins et des chercheurs qui s'intéressent à la mer extrêmement brillants et nombreux. L'opinion publique française, la culture de notre peuple français est plutôt tournée vers les terres. C'est une date plus récente, la ligne bleue des Vosges. C'est sans doute parce que nous avons été envahis et que donc c'est là qu'était la priorité.
Mais aussi, 1752, nous sommes en plein siècle des Lumières et l'on cherche, avec les cabinets de curiosité, à comprendre les choses, à comprendre les éléments. C'est peut-être l'une des raisons pour laquelle cette compagnie, tout d'un coup, est née et émergée et a été reconnue ensuite par le roi, par les autorités.
Oui, nous sommes d'ailleurs entrés à partir de cette époque, et ça s'est évidemment beaucoup développé sous le règne de Louis XVI, dans une période relativement exceptionnel dans notre histoire, où les dirigeants ont compris l'importance des choses de la mer. Mmh. Au fond, si vous regardez la marine militaire elle-même, c'est la marine de Louis XVI qui a été la plus brillante, ou l'une des plus brillantes de notre histoire nationale. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, comme vous le faites remarquer, les ports étaient évidemment le lieu où se créait la marine et où elle se créait les escadres, et à partir desquels, évidemment, soit les aventures de recherche, d'exploration, soit les aventures guerrières, soit évidemment principalement le commerce, se faisaient. Et donc, vu de Paris, dans notre pays très centralisé, la mer était quelque chose qui était assez lointain.
Oui. Mais je pense soudain coup, en vous écoutant, que c'est à cette époque-là qu'il fut commandé cette fameuse série des ports de France au peintre Ozanne, et qui a eu un succès énorme, car toutes les planches ont été diffusées et rediffusées dans des albums qui étaient compulsés. Et
il y a eu un travail assez considérable qui a été fait pour effectivement rassembler, mais je pense que c'était destiné à éclairer les dirigeants parisiens, c'est-à-dire la cour et les ministres autour de la cour. Je pense qu'il y avait deux approches qui prévalaient. Il y avait une approche militaire. À quoi sert une marine? Nous avons besoin d'une marine face à, notamment, à un certain nombre de pays, les Hollandais, les Britanniques déjà. Bon. Et puis, il y avait l'approche scientifique. Les marins étaient considérés déjà comme, en tout cas une grande partie d'entre eux, comme faisant partie de l'élite scientifique du pays.
À telle enseigne que l'un des fondateurs, ou l'un des premiers et les plus importants académiciens de l'époque, était un certain Duhamel du Monceau, un homme qui touchait à tout, un type extraordinaire qui a publié autant de traités sur la navigation que sur la culture. Je crois me souvenir que c'est l'un des premiers qui avait pensé à la manière dont les marins pouvaient vivre sur les bâtiments. Et il était également, et là ce qui est important, et ce qui rejoint ce que vous venez de dire, amiral, il était membre de l'Académie des sciences.
Oui, il y a d'ailleurs eu très vite une relation étroite avec l'Académie des sciences, puisque en 1771, l'Académie de marine devient l'annexe brestoise de l'Académie des sciences. Autrement dit, à cette époque-là, l'Académie de marine a appartenu, ça n'a pas duré très longtemps, une vingtaine d'années, à l'Académie des sciences. Et tout ceci illustre bien le fait que on pensait bien sûr aux aspects guerriers, on pensait bien sûr au commerce aussi, mais on pensait aussi à tout ce qui touche à la connaissance du monde, à l'exploration, à la recherche scientifique. Peut-être pas encore la recherche océanographique. On y viendra plus tard.
On y viendra un petit peu plus tard et malheureusement la Révolution a tout balayé. Et comme toutes les académies, toutes les institutions, l'Académie de marine fut supprimée. Et malheureusement, lors de la constitution de l'an 3, la création de l'Institut de France avait oublié l'Académie de marine, la petite sœur de l'Académie des sciences. Il a fallu attendre longtemps, malgré beaucoup d'efforts au milieu du 19e siècle, pour que l'Académie renaisse de ses cendres. On a commencé à en parler vers 1875-1885. Il a fallu encore attendre finalement 1921, ce qui est quand même très proche de nous, pour que l'Académie de marine retrouve toute sa position.
Oui, c'est assez caractéristique. Je reviens là sur l'an 3 et les années qui ont suivi. On voit bien que à cette époque-là, la France est vraiment tournée vers l'Europe continentale. Même si elle est engagée dans des affrontements successifs avec l'Angleterre, il n'empêche que c'est vers ce qui est devenu aujourd'hui l'Allemagne, vers la Russie, que les choses se passent et que les regards se tournent. Et donc, les dirigeants français ignore assez gravement la chose de la mer. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, quand l'empereur Napoléon Ier prend le pouvoir, il n'a que des déboires avec une marine qui a été largement détruite par la Révolution et à laquelle il ne comprend pas grand-chose. Et donc, les difficultés et les échecs à Aboukir, Trafalgar, etc., évidemment, n'ont pas amélioré les choses.
Oui, il y a même une anecdote que l'on pourrait souligner, c'est que les malheureux matelots de l'époque furent baptisés marins canonniers, étaient pourvus d'une sorte de casque, d'un costume de fantassin qui n'avait rien à voir, évidemment, n'était pas très pratique sur les bâtiments, sur les bateaux. Mais malgré tout, on constate quand même qu'un certain nombre de marins de l'Académie des sciences, d'autres de l'Académie française un petit peu plus tard, et que les liens académiques entre la marine et l'Institut ont toujours perduré.
Oui, c'est vrai qu'on a eu de grands marins qui ont été des découvreurs, des explorateurs. Bon, pas la peine de les citer ici, mais on a également évidemment de grands écrivains. Je dirais, au début du siècle dernier, on a eu des gens comme Loti, qui étaient des marins.
Et Jurin de la Gravière.
Et Jurin de la Gravière, bien sûr. Donc, ça n'a pas empêché, effectivement, les marins d'apporter leur contribution au développement de la culture et au développement des sciences. Mais évidemment, ils manquaient du cadre nécessaire. Et ils l'ont fait, comme vous l'avez rappelé, pour certains dans l'Académie des sciences et pour d'autres l'Académie française. Et effectivement, c'est 1921, donc après la Première Guerre mondiale, que les choses prennent forme jusqu'à aujourd'hui.
On a l'impression que ça a été difficile. Enfin, ce fut les étapes, tout est bien, qui n'ont pas fini bien, mais bien qui continuent bien. Et il est vrai qu'il y a eu un ministre de la Marine assez éclatant, Georges Legge, un tel enseigne d'ailleurs que la Marine ne l'a pas oublié, car régulièrement il y a un bâtiment qui porte son nom. Lui a fait beaucoup pour la Marine, et dans le fond c'est lui qui a permis de doter un véritable règlement l'Académie de Marine.
Oui, il y a eu un très grand soutien, mais c'était une époque où il y avait un ministre de la Marine.
Oui.
Et donc, où il y avait un responsable politique qui était en charge des destinées de la Marine nationale, la Marine de guerre. Ceci, bien sûr, n'a pas perduré aujourd'hui. Et quand on avait la chance d'avoir un politique de grande envergure, comme a été Georges Legge, évidemment, ceci se traduisait en termes extrêmement positifs pour... Et ça s'est traduit par l'Académie de marine.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il n'est pas rare encore de l'entendre des marins dire « je vais au ministère ».
On va au ministère, la rue royale, c'était la rue royale, c'était deux rues royales, c'était qui est le siège de l'état-major de la marine, où est le chef d'état-major de la marine, c'était le ministère de la marine, et ce ministère a duré jusqu'à la fin des années 50, où il y avait peut-être pas un ministre de la mer, mais un
secrétaire d'État.
Un secrétaire d'État à la mer.
Oui. Alors, amiral, aujourd'hui, l'Académie. D'abord, comment y entre-t-on ? C'est toujours la question que l'on pose toujours. Qui peut rentrer à l'Académie ?
L'Académie comprend 78 membres qui sont divisés en 6 sections. Et pour entrer à l'Académie, il faut d'une part faire acte de candidature, donc avoir un curriculum vitae qui vous permette de prétendre à entrer dans cette prestigieuse compagnie. Et il faut ensuite avoir deux parrains qui cautionnent votre candidature, et à partir de là, il y a une élection.
Alors, oui, comme dans toutes les académies.
Comme dans toutes les académies, et donc, c'est, je dirais, la cooptation, le choix par les académiciens eux-mêmes qui l'emporte le moment venu.
Donc, il y a, parmi les sections, il y a la marine militaire, la marine marchande, pêche et plaisance, sciences et techniques, navigation et océanologique, histoire, lettres et arts, droit et économie. Donc, un éventail très large, à la fois de toutes les sciences et les connaissances maritimes.
Oui, je crois qu'il est important d'insister sur ce point. L'Académie de marine, ce n'est pas l'Académie de la marine nationale ou de la marine militaire.
Oui, nous sommes bien d'accord.
L'Académie de marine, elle couvre l'ensemble du domaine des choses de la mer, et comme vous l'avez dit, du commerce à la plaisance, les ports, l'océanologie, l'océanographie, le patrimoine maritime... Et bien sûr, la marine militaire aussi. Oui. Mais la marine militaire n'est que, je dirais à la limite, un sixième.
Oui, les amiraux ne sont pas majoritaires.
Ah, les amiraux ne sont pas majoritaires. Et d'ailleurs, dans la succession des présidents, les amiraux ne reviennent qu'à leur tour, une fois tous les six fois. Quoi.
À peu près. Je crois me souvenir que vous comptez deux peintres huissiers de la marine.
Oui, c'est exact.
Un écrivain de marine.
Oui.
Ça, c'est pour citer...
Nous avions Jean-François Deniaux, qui n'est plus là aujourd'hui. Nous avons des avocats, nous avons des experts en droit maritime, nous avons des historiens, nous avons des économistes... Nous avons des personnalités qui ont été responsables à des postes de très haut niveau dans la marine marchande, secrétaire général de la marine marchande, ou responsables de grands chantiers de construction. Nous avons des ingénieurs d'armement qui étaient au départ des ingénieurs maritimes. Et puis bien sûr, nous avons quelques amiraux.
Et un académicien des sciences.
Et un académicien des sciences, tout à fait.
Qui m'a avoué qu'il n'avait jamais navigué.
Oui, mais je pense que...
Mais ce n'est pas très important.
Ça n'est pas très important. D'ailleurs, nous ne vérifions pas, quand nous procédons à l'examen des candidatures, que le candidat, effectivement, sait nager.
Sait nager ou embarquer. Donc, bien sûr, l'Académie travaille, et l'Académie a des commissions. Qu'apporte-t-elle ? Avez-vous des exemples, justement, de travaux récents ?
Alors, l'Académie, elle a, de grands types d'activités. C'est-à-dire que, d'une part... Elle produit pour ses membres et pour un ensemble de personnalités qui sont invitées, si vous voulez, parce qu'il y a 78 académiciens, mais il y a également des membres honoraires de plus en plus, et puis il y a des invités permanents qui sont plus nombreux que les académiciens. Et donc, à toutes ces personnalités, nous fournissons un programme de conférences. Il y a à peu près un peu plus d'une conférence par mois, qui traitent de sujets. Les conférences sont réparties selon les différentes sections de l'Académie. Et donc, ces conférences donnent lieu à débat. Dans le même ordre d'idées, l'Académie organise des voyages qui sont ouverts soit aux académiciens eux-mêmes et à leurs conjoints, soit aux invités permanents. Par exemple, l'année dernière, l'Académie de marine est allée en Turquie, ils avaient été auparavant en Chine. Et cette année, je les ai emmenés en Tunisie. Qu'est-ce que nous avons fait en Tunisie ? Nous avons regardé la politique maritime de la Tunisie, à la fois civile et militaire, le problème des ports, le problème des armements. Mais nous avons regardé également l'histoire maritime de ce pays, qui est quand même une très grande histoire, avec les Carthaginois. Et puis, bien sûr, nous avons fait du tourisme en même temps.
Permettez-moi de rappeler que vous avez été ambassadeur de France à Tunis pendant quelques temps.
Je me suis demandé d'ailleurs si on ne m'avait pas élu comme président parce que on souhaitait que j'organise ce voyage en Tunisie. Donc je plaisante.
Qui sait ?
Mais qui sait ? Et donc ça, c'est une première partie, donc qui est tournée vers les membres. Bien sûr, ça peut avoir un certain retentissement. Quand nous sommes allés en Tunisie, ça ne passe pas inaperçu chez les dirigeants tunisiens, dans l'ensemble maritime tunisien. Bon. Mais le deuxième domaine où nous essayons d'agir, c'est effectivement d'apporter notre contribution à la réflexion sur les problèmes de la marine. Alors, dans les années passées, par exemple, l'Académie de marine a produit des documents sur faut-il développer en France une Coast Guard ou faut-il développer une Coast Guard européenne. Vous savez qu'en France, on a une organisation particulière pour l'action, le contrôle de l'action de l'État en mer, et l'Académie de marine a émis un avis peu favorable à ce qu'on passe de cette organisation, une organisation assez économique et assez efficace, qui est née des difficultés qu'on a rencontrées dans notamment dans les pollutions marines, à un projet européen que poussent certains d'une Coast Guard à l'image américaine. Voilà un exemple. Mais cette année, il y a eu des travaux importants qui ont été entrepris, d'une part dans le cadre français, sous l'égide du secrétaire général de la mer, et dans le cadre européen pour l'élaboration d'une politique commune maritime européenne. Il s'agissait d'un livre vert qui était soumis à consultation dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Et donc, nous avons travaillé sur ce livre vert de manière à fournir dans un premier temps des éléments au secrétaire général de la mer et dans un deuxième temps, ce que nous sommes en train de faire, à la Commission européenne elle-même pour dire « voilà vos propositions, voilà notre avis ». Mais nous entendons poursuivre sur d'autres sujets.
Oui. Vous avez des réactions, par exemple, sur ce livre vert ?
Non, nous n'avons pas de réaction. Je pense que c'est pris en compte, soit par les autorités françaises dans les réponses qu'ils font à la Commission européenne, soit à la Commission, mais ça nous le verrons un petit peu plus tard. S'agissant, par exemple, de cette étude sur les Coast Guard, oui, enfin, nous avons des réactions en ce sens que nous savons que ceci est venu conforter les positions de la Marine nationale, mais également du secrétaire général de la mer. Mais nous avons d'autres idées de réflexion. Par exemple, on peut se poser la question aujourd'hui de l'espace maritime européen. Il y a des politiques maritimes de l'Europe qui se développent. Il y en a une qui est très engagée, qui est celle de la pêche. Mais il y en a d'autres sur la sûreté, sur la lutte contre les pollutions. Il y a l'ensemble sur l'immigration également, clandestine. Et donc, on peut se poser la question, doit-il y avoir un espace maritime européen dans lequel des différents services maritimes pourraient coopérer. Voilà un sujet que nous allons traiter, nous avons commencé de traiter.
Et l'aspect de la construction navale, par exemple, avec les syndicats, ce que vous examinez exactement ?
Alors, ce que nous essayons de faire, et qui est un lien d'ailleurs entre les deux parties que j'ai indiquées, et ça c'est quelque chose de relativement nouveau que j'essaie de mettre en place, c'est que je pense que sur un certain nombre de sujets très concrets, surtout très à l'ordre du jour, il faut que nous informions davantage et que nous puissions émettre plus facilement des avis. L'exemple des syndicats est très caractéristique puisque j'ai confié à l'un de nos académiciens le soin de prendre contact avec les syndicats de la mer, de la marine, de manière à nous former notre propre opinion sur leur position et à partir de là, éventuellement, le cas échéant, émettre un avis. Mais je dirais que ceci a en outre l'avantage de faire apparaître l'Académie de marine comme partie prenante de la vie maritime française. Bon, il y a cet exemple-là, mais par exemple, vous en avez d'autres sur le financement des navires, de commerce, etc.
Donc, consultatif certes, mais participant, d'autant plus on n'y met pas seulement un avis, on va plus loin maintenant avec cette Académie.
Ben, c'est ce que nous voudrions faire. Alors évidemment, ce n'est pas très, très facile parce que aujourd'hui, tout est affaire de communication, enfin beaucoup est affaire de communication, et que la communication demande un travail de longue haleine, demande des moyens. Évidemment, aujourd'hui, l'Académie de marine est au début de l'action qu'elle va entreprendre dans ce sens-là.
Mais l'Académie de marine dispose, par exemple, d'un site internet que l'on peut consulter, sur lequel elle peut émettre des avis, que chacun puisse regarder, par exemple.
L'Académie de marine dispose déjà d'un site internet qui est, je crois, de bonne qualité, que nous entendons moderniser et développer. Elle dispose par ailleurs, je dirais, de compétences tout à fait remarquables dans ce domaine-là. Et en plus, elle est un des seuls endroits où ces compétences sont réunies. Et donc, on peut avoir une approche transversale des sujets à traiter. Et à partir de là, on doit être en mesure de publier des avis. Mais, vous savez, une des contraintes qu'il faut prendre en compte, c'est que une académie, c'est pas tout à fait une démocratie. Ça, parce que, pour publier un avis, il faut que cet avis soit approuvé. Et donc, si vous voulez, nous devons travailler à la façon d'élaborer des procédures internes qui nous permettent, dans des délais acceptables, de publier des avis. Parce que le temps est compté aujourd'hui dans la communication d'aujourd'hui. Et donc, ça n'est pas toujours évident.
Donc, l'Académie Marine joue un rôle essentiel dans la société française. Bien sûr, pour tout ce qui tient à la mer, nous avons quand même beaucoup de mer. Notre mer est très importante. Et là, votre rôle est à jouer, peut-être comme quelque chose qui conduit et qui amène davantage.
Ce que nous voudrions faire, c'est aider la société française à vraiment comprendre les choses de la mer. Comment faire que nos concitoyens, bien sûr nos concitoyens vont sur les plages, ils louent des bateaux, on a une marine de plaisance tout à fait remarquable. On commence à avoir de nouveau une marine de commerce qui est digne de ce nom, avec des armateurs prestigieux comme la CMA-CGM, qui est maintenant le troisième opérateur mondial pour les conteneurs. Nous avons des chercheurs remarquables, nous avons les peintres de la marine. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous avons des compétences tout à fait exceptionnelles, mais il n'y a pas une prise de conscience par la société française de l'importance de la mer pour la France d'aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Au fond, les Français ne sont peut-être pas très bien conscients que plus de 90% de ce que nous importons vient par la mer et que nous sommes considérablement dépendants de la mer. Donc l'Académie de Marine, elle, devrait être un des moyens d'appeler l'attention de nos concitoyens sur les choses de la mer.
Je vous remercie.
Merci.
Thank you.